c'est parce que Radio Capéuné le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Plusieurs personnes se sont fait arnaquer lorsqu'elles désiraient obtenir les visas du Canada. Et d'après l'OIM, il y a de plus en plus des intermédiaires qui prétendent faciliter les démarches pour l'obtention des visas. Donc l'OIM, c'est la structure qui reçoit les demandes de visas pour le Canada. Et pourtant, ces personnes n'ont pas qualité, hein, qui se font passer pour des intermédiaires. Alors, quelle est la procédure à suivre pour obtenir les visas canadiens? Nancy Mojaka est coordonnatrice du Centre d'obtention des visas du Canada à l'OIM. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Alors, il semble que de plus en plus, il y a des gens qui se font escroquer en voulant obtenir le visa canadien.
Tout à fait. Alors, nous avons remarqué que beaucoup de gens se sont plaints, mais malheureusement, 3-4 essais, ensuite, ils viennent enfin dévoiler la vérité pour dire que quelqu'un leur aurait proposé de leur rendre ce service, soi-disant qu'il travaille avec nous ou qu'il me connaît moi personnellement. Alors, pour être très clair, au départ, j'aimerais dire ceci. Le centre de réception reçoit simplement les demandes. La décision de l'octroi ou du refus est au niveau du bureau de visa à Dakar. Et là, il n'y a personne qui peut influencer quoi que ce soit.
Ce n'est plus au Kenya ?
Non, ce n'est plus au Kenya depuis le 1er septembre de l'année passée.
Okay.
Nous avons été transférés à Dakar parce que nous sommes francophones et surtout parce que le personnel au Kenya n'était plus grand. Le Congo envoie beaucoup de demandes. Déjà, juin, juillet, faisait plus de 1000 demandes de visa. Juin, juillet seulement. Et avec ça, le personnel de Kenya n'était plus en capacité de résoudre toutes les questions à temps. Il fallait envoyer là où il y a un plus grand personnel. Et voilà, ça a été envoyé vers Dakar. Nous appartenons maintenant à la partie de l'Afrique de l'Ouest qui traite les demandes de visa canadien pour les Congolais de Kinshasa et ceux de Brazzaville. Mais nous ne prenons pas la décision à notre niveau. Nous sommes en quelque sorte la poste qui parle. Donc, vous pouvez communiquer avec nous, nous poser des questions. Nous pouvons vous orienter, vous conseiller. Mais notre travail s'arrête là. Ça s'arrête absolument là. Quand il s'agit de la décision, c'est le bureau de Dakar qui prend toutes les décisions et c'est la discrétion de l'agent de l'immigration. Alors, nous ne pouvons...
Alors, qu'est-ce que ces escrocs racontent aux gens pour les soutirer de l'argent?
Ils leur racontent une des histoires que j'ai entendues, c'est qu'ils me connaissent moi et que je prends la décision là-dessus. Nous racontons que le dossier va à Dakar juste pour éviter justement que nous soyons ennuyés, mais dans la réalité des faits, les dossiers sont traités à Kinshasa. C'est ce qu'ils racontent. Et donc, ils leur disent qu'il leur faut un certain montant. Il y a une dame qui s'est plaint d'avoir perdu 8 000 $. Un monsieur qui s'est plaint d'avoir perdu 15 000 $. Donc, tout ça pour juste l'octroi d'un visa qui coûte officiellement, et les montants sont dans le site internet, pour un visa visiteur d'un adulte, c'est $150. Et c'est payable à la banque, ce n'est pas chez moi qu'on paye, c'est payable à la BIAC uniquement. Ce n'est pas de l'argent qu'on remet cash à quelqu'un, ce n'est pas de l'argent qu'on multiplie fois 10 pour remettre à quelqu'un, ce n'est pas ça.
Et les gens ont déboursé 15 000 $
oui.
Pour obtenir un visa.
Oui.
Alors que le visa officiellement coûte 100, vous avez
150.
Dit 150 $.
150. Donc on va de 150 à 15 000, on va de 150 à 8 000. C'est exponentiel la multiplication et c'est triste. C'est malheureusement triste que nous en arrivons là. Nous en arrivons là et
ces intermédiaires prennent les passeports, ils prennent toutes les demandes.
Ils prennent tout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent de faux papiers. Nous avons remarqué
des formulaires.
Oui. Nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de faux extraits bancaires, de fausses attestations de services, de fausses attestations de naissance. Il y a des gens qui des passeports qui sont en bonne et due forme, mais qui ne sont pas, dans les informations, ne sont pas véridiques. Donc, si quelqu'un est peut-être né en 1982, on reçoit quelqu'un qui a l'air d'être plus vieux, mais qui, finalement, sur son passeport, est de 93. Ça n'a absolument aucun sens. ce sont des choses qu'on peut remarquer, qu'on peut voir. Nous pouvons voir tout ça. Et nous voulons vraiment que ce soit clair, parce que ça ternit à la fois l'image de l'OIM, mais aussi l'image du Congolais en général. Parce que si le bureau de visa à Dakar doit voir des dossiers pareils, il voit autant de faussetés dans les dossiers. Le Congo est du coup catégorisé dans les pays où...
Et ces faux dossiers arrivent même jusqu'à Dakar.
Oui, nous n'avons malheureusement pas le droit à notre niveau de dire à quelqu'un « vos documents sont faux, retournez chez vous ». Nous n'en avons pas la permission. Donc ce que nous faisons, nous recevons le dossier tel quel. Nous le recevons. À notre niveau, tout ce que nous pouvons faire, c'est voir que tous les éléments qui sont requis pour le type de visa demandé sont là. Et nous envoyons. C'est au bureau de visa à Dakar de tout décider. Et d'une façon ou d'une autre, ils savent déceler les faux des vrais.
Voilà, faites attention, il y a de plus en plus des arnaqueurs qui vous trompent pour vous soutirer de l'argent. Il y a déjà des cas, des victimes, 8 000, 15 000 dollars pour un visa qui coûte 150 $. Voilà. Alors, mais dites-nous, comment se fait-il que c'est l'OIM qui traite, qui reçoit les demandes des visas pour le Canada?
C'est un partenariat entre l'OIM et le gouvernement canadien. Alors, avec ce partenariat, partout au monde où il y a des bureaux de réception des demandes de visa canadiens, c'est toujours lié à l'OIM. C'est un partenariat qui a été signé il y a très longtemps. Dans tous les autres pays, les centres de réception ont été opérationnels depuis beaucoup d'années. Le nôtre aura 2 ans en janvier. Et voilà, il fallait uniformiser tout partout, parce qu'à l'époque, vous vous en souviendrez, tout le monde partait à l'ambassade. L'ambassade aujourd'hui ne gère plus que les cas pour les Congolais, seulement les officiels, et pour le reste, ce sont les ressortissants canadiens et australiens. Donc le centre de réception a pris la partie demande de visa pour les étrangers du Canada et pour en fait alléger la tâche de ceux qui sont à l'ambassade, parce qu'il fallait...
Parce que le personnel est réduit.
Exactement.
Oui. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Kiyosa, il nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Kiyosa.
Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, je suis ici à Lubumbashi, au campus de l'université de Lubumbashi, bien sûr. Mais j'avais une très grande préoccupation par rapport au discours que vous êtes en train d'entretenir.
Oui.
Alors, je voulais poser la question à madame, juste pour savoir. Moi qui vous parle, j'étais en train de chercher il y a 4 ou 5 ans déjà passés, aller poursuivre mes études au niveau du Canada et passer le reste de ma vie là-bas. Mais je m'étais fait bloquer par un groupe de gens, bon, ceux qui m'avaient fait chuter et faire à ce que je puisse poursuivre mes études ici à l'Université de Lubumbashi. Et là, je suis déjà en 3e bachelier. Je suis en train de m'apprêter, juste après avoir terminé cette année, il faudrait que j'aille poursuivre...
Oui, Kiyosa, dites-nous, on vous a escroqué, combien d'argent vous avez donné à ces escrocs?
Ouais, c'était à peu près une affaire de 900 et quelques dollars, parce que c'était des sommes d'argent que je leur ai donné par tranche. Hein.
19 000 $, vous voulez dire?
Oui, oui.
Oh là là.
Ouais. Oui, oui. Et c'était en quelle année que cette affaire est arrivée?
Il y a déjà 4 ans passé, je crois que c'était cette processus avait commencé depuis 2010 vers 2011.
Et comment vous êtes arrivé à remettre 19 000 $ à ces gens?
Ouais, comme j'étais en train de vous le dire, c'était par tranche, ça c'est de 1, et puis de 2, j'avais à faire presque tout le prologue de tous les processus que ces gens étaient en train de m'infliger. Je m'étais rendu compte qu'il fallait maintenant que j'aille même le billet d'avion au niveau de l'aéroport de la Roanne, décoller et aller directement au Canada parce que j'avais tout payé, le logement, de là, mon séjour, toutes les procédures possibles qu'ils étaient en train de me demander. Mmh. Mais juste après un certain temps, on s'est rendu compte que c'était un groupe de
malfaiteurs.
Ils ont disparu dans la nature.
Avec les 19 000 dollars. Ok, merci pour le témoignage. Ismaël Mompoy, vous êtes aussi à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Je vais demander à madame de savoir, est-ce que dans des points de repère tels que ici à Lubumbashi, est-ce qu'ils peuvent avoir aussi, tel que le système de consulat, est-ce qu'ils peuvent aussi nous indiquer là où ils sont fixés pour vivre, qu'on ne puisse pas aussi évader les fonds. Et à la différence de savoir concrètement, parce que là où il y a une bonne maison, une fosse ne peut pas aussi manquer. Mais comment on peut faire l'identification des bons documents et des faux documents? Si il en est ainsi, si par exemple on parvient à identifier que ça ce sont des faux documents livrés par ce malfrat, si ils ont bien identifié, quelle procédure dont on peut mener ou faire pourvu que ce genre de personnes soient traduites en justice et pourvu que la justice puisse aussi trancher de cette affaire. Je vais demander aussi, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la maison Schengen et leur maison? C'est ça mes trois préoccupations, oui.
D'accord, bien. Ismaël.
Merci, vous avez la parole.
Alors, premièrement, il y a une grande différence. La maison Schengen, c'est la partie Europe. Ça n'a rien à voir avec le Canada. Mmh. Et nous ne sommes pas, l'OIM n'est pas en collaboration avec la maison Schengen.
L'OIM, l'Organisation internationale
pour l'immigration. Oui.
Voilà.
Alors, pour votre première question, il n'y a malheureusement pas un seul de nos bureaux dans une autre partie de la République, c'est seulement à Kinshasa. Mais je pense que d'ici la fin de l'émission, nous vous donnerons le numéro de notre bureau. Alors, ne cherchez pas à ce que vous ayez une personne qui fasse les papiers pour vous. Vous êtes vous-même vivant et je pense en capacité de produire des vrais documents. Alors, pourquoi ne pas le faire vous-même? Ce qui m'amène à la réponse de votre deuxième question. Alors, pour éviter tout ça, mon conseil serait de faire vos papiers vous-même. Vous avez besoin d'une attestation de naissance, allez à la commune. Demandez l'attestation en bonne et due forme. Faites le paiement nécessaire, obtenez le document. L'essentiel, c'est de ne pas emmener de mensonges dans votre dossier. Mettez tous les papiers originaux. Vous êtes allé à l'université, vous avez certainement eu un diplôme qui vous a été décerné. Présentez-le. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous travaillez, votre organisation qui vous emploie peut vous octroyer une attestation de service. Emmenez-la avec vous. N'essayez pas de donner à quelqu'un la tâche de faire ce qui vous revient. C'est vos documents, à vous de les produire, ne passez pas par des personnes intermédiaires. Et avec ça, vous éviterez justement d'être arnaqué et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des agents qui ne sont pas.
Et surtout que l'OIM se trouve seulement à Kinshasa.
Voilà.
Alors ils peuvent dire, nous sommes les représentants de l'OIM ici et on va vous aider.
Non, nous avons un bureau à Lubumbashi, mais ce bureau-là ne fonctionne pas avec le bureau de demande de visa canadien. Je précise très bien, le centre de réception de demande de visa canadien n'existe en RDC qu'à Kinshasa. Et ça s'arrête là. Nous n'avons pas de sous-bureau ailleurs. Il n'y a que le bureau de Kinshasa.
Voilà. Il n'y a que le bureau de Kinshasa. Il y a Kiyosa qui voulait aller poursuivre ses études au Canada et vivre là-bas. Alors, il s'est fait rouler 19 000 dollars.
C'est beaucoup d'argent.
Ça,
c'est toute une installation. Il devrait commencer par se trouver une inscription. Les inscriptions c'est pas de la magie. Il sait utiliser l'ordinateur, il peut aller dans un cyber. S'il a l'internet chez lui à la maison, c'est encore plus facile. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller sur Google, taper université au Canada. Il explore, il regarde, il trouve, il peut se faire inscrire étant à Lubumbashi. Les inscriptions en ligne se font pour les universités canadiennes. C'est très possible, il n'y a rien de magique. Il suffit juste de cliquer au bon endroit, de mettre la bonne information et on a une inscription en bonne et due forme. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit sur place au Canada pour vous trouver une inscription. Vous pouvez faire ça vous-même d'où vous êtes. L'Internet nous a beaucoup facilité la tâche et on peut trouver tout ça. Tout est là. L'outil Internet nous a beaucoup facilité la tâche. On n'a pas besoin de personne pour faire ça.
Madame Pacifique, vous êtes à Kinshasa. Hein? Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour, l'invité.
Bonjour, madame.
On vous écoute.
Bon, c'est pas moi, mais reçu une amie qui a été victime de...
D'escroquerie ?
Ouais, d'escroquerie. Juste à l'université, professeur d'université. Elle m'a dit, il y a l'université, j'ai déjà oublié le nom, c'est en Burkina Faso, tu peux faire pour, en ligne et tu peux donc tu étudies en ligne ça, sans problème. Donc, elle a été victime de frais parce qu'on l'a imposé les frais académiques d'une année, l'inscription et déjà 5 syllabus, elle n'avait pas encore commencé les cours. Vraiment, elle était victime. Et aujourd'hui, moi, personnellement, ça me fait peur hein, d'aborder de tels sujets. Ça. Autant mieux étudier sur place ici au Congo, c'est Ramadan.
Non, autant mieux avoir les bonnes les bonnes informations et aller taper à la porte, frapper à la porte qu'il faut.
Oui, exactement.
Alors, dites-nous où se trouve l'OIM pour que nos auditeurs sachent exactement où faut-il aller.
Alors, notre adresse c'est Colonel Mondjiba. Nous sommes juste en face de l'ambassade de France et nous sommes dans la concession Cotex. Alors, pour être plus explicite, si vous venez du boulevard du 30 juin vers Kitambo Magasin, nous serons à votre gauche en diagonale de Tigo. Si vous venez de Kitambo Magasin vers le boulevard du 30 juin, nous serons à votre droite, juste en diagonale de Tigo. Et juste à côté de nous, il y a un nouveau centre commercial qui a été construit. C'est peint en jaune et gris. Juste après, vous verrez une barrière. Vous entrez, vous demandez l'OIM et vous aurez toute l'information gratuite. Ce n'est pas payant d'obtenir de l'information. Nous ne faisons pas payer ce service-là.
Et les gens peuvent venir eux-mêmes directement avec leur dossier,
ils
avoir toutes les informations possibles.
Eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'envoyer qui que ce soit. Généralement, tout le monde se dit que nous sommes des personnes qu'on ne peut pas atteindre, à qui on ne peut pas parler. Pas du tout. Nous sommes très accessibles. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Quiconque a une question, vous pouvez soit appeler, soit nous faire un mail, soit venir physiquement. Nous n'avons absolument aucun problème. Venez, renseignez-vous, ayez la bonne information à la bonne source. Et comme ça, vous évitez aux arnaqueurs de vous faire payer le prix de quelque chose qui n'est pas vrai.
Alors, en venant, par exemple, le requérant du visa qui vient chez vous, il doit constituer un dossier. Et quelles sont les pièces qu'il doit apporter à l'OIM?
Alors, je dis pour ça tout dépend de la situation de la personne. L'essentiel, c'est de mettre, si vous travaillez, vos documents de service. Si vous êtes étudiant, votre attestation de fréquentation scolaire. Si vous êtes enfant mineur, évidemment, ce sont les parents qui vous prennent en charge. Alors, aux parents de présenter les documents conséquents. Mais tout change selon la personne. Les personnes qui travaillent ont des documents spécifique à ceux qui travaillent, ceux qui sont à charge aussi ont leurs documents et évidemment ceux qui sont par exemple en mission de service, ils ont des documents spécifiques. Il y a différentes choses. Le point commun, ce sont les formulaires et bien sûr le passeport et les deux photos passeport qu'il faut toujours avoir. Mais à part ça, tout dépend de ce que la personne fait, qui la personne supporte, est-ce que la personne va seule en vacances ou pour étudier. Donc tout dépend de la situation de la personne, ce que la personne fait. Ce n'est pas toujours une copie conforme pour tout le monde.
Et quand on vient avec les dossiers, avec tous les éléments, on paye combien? Vous avez dit qu'il faut aller payer à la banque.
Oui, pour les visas visiteurs, pour ceux qui sont âgés entre 14 et 79 ans, c'est $150. Pour ceux qui sont en dessous de 14 ans et au-delà de 79 ans, eux payent $80. La raison, c'est que la biométrie n'est requise que pour ceux qui ont 14 ans, à partir de 14 ans jusqu'à 79 ans. Et comme les frais de biométrie s'élèvent à $70, voilà pourquoi ceux qui doivent payer, ceux qui sont soumis à la biométrie payent 150, mais ceux qui ne sont pas soumis à la biométrie, c'est moins 70, donc on reste qu'avec les $80. Mais pour ceux qui vont étudier, les étudiants par contre, les frais de visa, c'est $120 et frais de biométrie, c'est toujours 70. Si vous êtes dans la tranche d'âge qui est soumise à la biométrie, vous payez $190. Si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge, vous payez $120.
Alors, vous introduisez en bonne et due forme votre dossier, mais le visa, on peut vous le donner ou pas?
On peut vous le donner ou pas. Ça, c'est la discrétion de l'agent de l'immigration. Nous ne savons pas exactement le point de déclic. Nous ne savons pas. Nous envoyons le dossier, eux décident. Alors, beaucoup de gens nous posent aussi la question de savoir quel est le document clé qu'il ne faut pas manquer pour avoir le visa. Nous ne le savons pas. La réponse officielle et la vraie réponse, c'est juste de mettre les documents vrais et de tout mettre en place.
Or, les escrocs, là, ils fabriquent des documents, ils fabriquent des extraits bancaires.
Ils fabriquent tout, les extraits bancaires,
les attestations. Ils imitent même les signatures.
Tout à fait. Nous en avons vu beaucoup de cas, beaucoup, avec des signatures imitées, des signatures fausses, des cachets. En fait, on se rend compte que tout est possible à Kinshasa. On peut obtenir tous les cachets de n'importe quelle organisation.
Mais c'est toute une administration.
C'est toute une administration et ils se font malheureusement beaucoup d'argent aux dépens des personnes qui sont peut-être honnêtes, mais qui ne savent pas, qui sont juste ignorants. Voilà pourquoi nous tenions vraiment à éclaircir les points, justement, pour éviter ça.
Et pour les compatriotes qui sont dans les autres provinces, l'OIM, le bureau se trouve à Kinshasa, comment procéder?
Alors là, c'est la malheureuse nouvelle pour vous qui n'êtes pas à Kinshasa, vous êtes obligé de faire le voyage jusqu'à Kinshasa. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez nous appeler au +243 81 444 34 66.
Pouvez-vous reprendre?
Alors, c'est 081 434 44 66. C'est le numéro du centre de réception de demande de visa canadien. Vous pouvez nous appeler entre 9 et 16h30. Quelqu'un vous répondra. Nous sommes à 3 dans le bureau. Si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre répondra forcément et nous répondrons à vos questions, quelle que soit la question. Nous allons vous aider pour ça.
Et est-ce qu'il y a un site internet où les gens peuvent aller aussi?
Bien sûr.
Pour avoir toutes les informations.
Bien sûr. Alors, le site internet, c'est www.vfsglobal.ca/canada/DRC. Alors avec ça, vous pouvez prendre votre temps, naviguer, vous pourrez cliquer sur visite si c'est votre but de voyage, vous verrez toutes les options et toutes les autres options pour immigration permanente ainsi que étudiant.
Bien, nous avons en ligne Jean-Clovis de Mouenéditou. Jean, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute Jean.
Oui, j'avais une question à poser à propos du sujet qui est en train de passer. Oui, je voudrais demander à l'invité, comme elle nous a dit que c'est le bureau de Dakar qui prend la dernière décision à propos des documents qui sont, bon, des faux documents qui arrivent, qu'on livre dans des pays, je ne sais pas, au Congo et ailleurs. Mais je voudrais demander à l'invité, quelle est la mesure que le bureau de Dakar a prise pour punir les contrefacteurs, les livreurs des faux documents là? Et puis, le bureau de Dakar trouve que ces documents proviennent de tel pays. Pourquoi ils ne peuvent pas sanctionner les pays là, mais ils font toujours passer les documents là, les faux visas là, et les concernés, où sont les quoi? Les concernés passent directement dans le pays où ils étaient destinés, et les mêmes faux documents là passent encore. Ce sont là mes deux questions que je pose à l'invité.
Bien, Gédéon, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à madame l'invité.
Bonjour.
On vous écoute, Gédéon.
Oui, ma préoccupation, en fait, ça va parce que j'ai entendu madame essayer un peu de parler concernant l'inscription qui va se passer au niveau du Canada. Il a dit, si nécessairement on a besoin de le faire, on peut cliquer sur les sites universitaires au Canada directement. Alors, j'aimerais demander comment est-ce que ça va se faire concernant l'argent, comment est-ce qu'on va déposer l'argent au niveau... Il faut avoir aussi un compte à la banque ou bien comment ça va se passer?
Bien, merci. Nancy Moudjaka.
Ok, alors je vais commencer avec vous, Gédéon. Le paiement, si vous faites une inscription en ligne, se fait avec une carte bancaire, Mastercard, Visa... ou American Swiss, je pense. Alors, ça, vous pouvez, si vous-même n'avez pas de compte bancaire ni de carte Visa, Vous pouvez utiliser la carte de n'importe qui. Vous avez une connaissance, un membre de famille qui a une carte Visa, une carte Mastercard. Vous pouvez utiliser cette carte-là pour justement faire le paiement. Ce n'est pas nécessairement votre carte qu'il faut utiliser. Alors, pour revenir à la question du premier auditeur, je dirais ceci. Quand il s'agit des faux documents et de la décision du bureau de visa à Dakar, je ne sais malheureusement pas répondre à votre question parce que le bureau de visa à Dakar est au-dessus de nous et leurs décisions ne sont pas toujours expliquées. Ils ne nous expliquent pas toutes les décisions qu'ils prennent. S'ils jugent que nous devons avoir l'information, alors ils nous informent. Mais si nous ne sommes pas concernés directement, ils ne nous disent rien non plus.
Alors, donc vous n'avez aucun pouvoir décisionnel
pas du tout.
L'octroi des visas.
Pas du tout. Le bureau de visa décide de tout. Si ce sont des faux, ils savent comment répliquer. Ils ne peuvent pas. Je ne pense pas qu'à leur niveau, ils peuvent faire arrêter à partir de Dakar quelqu'un qui est à Kinshasa, mais espérons que...
Mais les faux dossiers sont toujours détectés.
Ils sont toujours détectés. En tout cas, depuis que je suis là, depuis janvier de l'année dernière, je n'ai pas vu un faux document qui a reçu un visa. Je n'en ai pas vu. Je peux voir ça, je peux détecter à mon niveau quand c'est faux, mais évidemment, je ne sais pas tout. Il y a certainement des faux documents qui sont passés sans que je ne le détecte, ça je l'avoue. Mais le bureau de Dakar peut vérifier beaucoup de choses.
Mais pourquoi ne pas bloquer les faux documents à partir d'ici?
Bon, on nous appelle la poste qui parle. Donc, quand vous faites passer des documents à la poste ne vous dit pas que cette lettre-là a été mal saisie, il ne faut pas la transmettre. La poste fait son travail et transmet le document. C'est à la personne, le destinataire, de décider si la lettre est recevable ou pas.
Et les malfaiteurs-là hein, qui se font de l'argent, ils opèrent où généralement hein, un peu partout à travers le pays.
Un peu partout à travers le pays, mais nous avons même remarqué que certains s'installent aux alentours de nos bureaux. Ils sont dans les alentours du bureau, autour de la concession.
Vous les avez déjà identifiés?
Nous en avons vu que certains, mais comme nous n'avons pas de preuves tangibles, nous ne pouvons non plus rien faire. Mais nous les identifions, quelques-uns. Ils circulent un peu autour du bureau. Ils ont toujours quelque chose à faire autour de notre bureau. Alors, quand on va dehors, c'est un visage qu'on voit à répétition. C'est pratiquement tous les jours. Et la personne parle à certaines personnes qu'on voit finalement dans nos bureaux. Donc, on peut deviner l'histoire derrière tout ça. Mais nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit.
La police, vous pouvez... Il n'y a pas moyen de saisir la police.
Alors, nous avons émis un communiqué officiel venant de l'immigration canadienne, Citoyenneté et Immigration Canada, que nous avons affiché partout pour dire ça de façon officielle. Ce n'est pas que Kinshasa a décidé de ne pas travailler avec les intermédiaires, mais c'est le gouvernement canadien qui a émis le communiqué et dans tous les centres, partout au monde, ce communiqué-là, dans toutes les langues, a été imprimé et affiché partout. Officiellement, et c'est la vérité, nous ne travaillons pas avec des personnes intermédiaires.
Justin Boka, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Oh. Bonjour, madame.
Bonjour.
On vous écoute, Justin.
Oui, je pense que le problème où il y a des escrocs qui ne pourront que se multiplier, c'est parce que la communication n'est pas claire, madame. Dans ce que vous dites, excusez-moi de dire ça comme ça, j'ai l'impression qu'il y a trop de faux. Vous allez demander, tout à l'heure, vous venez d'édicter une liste des éléments que vous avez besoin pour octroyer le visa. Quelqu'un peut vous donner, effectivement, un dossier avec de vrais documents. Mais vous ne dites pas la vérité aux gens. Quelqu'un va vous dire, par exemple, que j'ai un compte qui a X montant. C'est le montant peut-être qu'on demande pour aller au Canada. Mais en retour, on va lui dire, ah non, vous savez, les montants que vous avez donné, ce n'est pas ça, c'est insuffisant et tout et tout. Donc, vous n'êtes tellement que vous ne dites pas la vérité aux gens pour dire peut-être que, pour le moment, le gouvernement canadien peut recevoir autant de personnes et que nous avons déjà atteint ces nombres-là cette année. Vous ne communiquez pas cela. Vous entretenez un flou. Vous voulez que le gens vienne, je ne sais pas où acheter les fonds, je ne sais pas si les formulaires, on doit déjà l'acheter ou bien ça se passe comme ça en ligne, il faut passer par un cyber. Donc vous donnez les gens d'aller donner de l'argent au cyber et en retour, on dit « Ah non, votre visa, plutôt votre dossier a été refusé ». C'est parce que vous entretenez le flou, non seulement chez vous, madame, mais même dans toutes les ambassades qui sont installées ici chez nous. Ici en Afrique, vous voyez, à voyager, on a mystifié ça. Les Congolais pensent que si je dois aller au Canada, c'est au ciel. Donc, il doit tout faire et quelqu'un est même en mesure de dépenser 19 000 dollars qu'un Canadien résident au Canada ne peut pas trouver. Voyez-vous? Donc, parce que vous, vous avez entretenu le flou. Il y a le flou, donc vous ne communiquez pas normalement et clairement, vous ne dites pas aux gens. Ça ne sert à rien. Pour cette année, nous avons déjà atteint les nombres de visas qu'il faut octroyer les gens. Tous les problèmes résident à ce niveau-là. Alors là, les escrocs sautent sur l'occasion et c'est comme ça. On peut même vous citer, madame. Voyez-vous? On peut vous citer, on dit non, voilà ce qu'il a dit aux antennes, ce n'est pas ça. Il y a un moyen, si vous m'amenez X montant, je vais vous donner les visas. Donc je crois, à mon humble avis, que les problèmes se situent à ce niveau-là.
D'accord. Merci, Justin. Daniel, vous êtes en Bougimaï. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, j'ai très bien suivi l'émission. Mais je voudrais que madame confirme un peu les numéros d'appel. Mm-hmm. J'ai mal écrit un chiffre, ça c'est la première de mes préoccupations, ainsi que le site site internet. Bon, et en dehors des heures dont madame a parlé, de 9 à 16 heures, on ne peut pas avoir son numéro privé auquel on peut l'appeler pour conseil. Et nous sommes en Mbujimayi, nous avons un bureau représentant la MIBA, où nous sommes en train de travailler à Kinshasa. Est-ce que ça demande normalement la présence physique de l'intéressé où nous pouvons transiter par procuration à notre protocole officiel pour venir déposer ou pour acquérir une certaine information?
Bien, merci M. Daniel. Nancy Moudjaka.
Alors, M. Justin, je commence par vous. Nous n'entretenons pas le flou parce que vous et moi sommes ici au Congo, à Kinshasa précisément. Et le Canada est là où il est. Ils n'ont pas, je ne pense pas qu'un pays ait l'intention de dire que nous avons reçu tel. Ça, c'est peut-être dans le cas d'immigration permanente. Mais c'est le gouvernement canadien qui décide. Mais tant qu'ils ne nous ont rien dit, nous ne pouvons pas émettre de faux communiqués. Nous dépendons d'eux. Si eux disent que nous devons émettre un communiqué pour dire « ne recevez plus les demandes », ils nous le feront savoir. Et évidemment, nous vous informerons, tout sera dans le site internet. C'est la transparence.
Donc vous n'êtes qu'un centre de réception.
Nous sommes le centre de réception. Alors si le Canada est trop plein et qu'il ne sait plus recevoir, ils nous fermeront. Nous n'avons pas de raison d'être si ce n'est recevoir les demandes. Si nous ne pouvons plus recevoir les demandes, alors que faisons-nous dans nos bureaux? Rien du tout. Donc nous ne pouvons pas dire cela. Et nous ne pouvons pas être cités pour les malfrats. Si quelqu'un veut voyager, eh bien qu'il vienne poser la question directement à nos bureaux, nous répondrons. Nous ne pensons pas que le Canada soit plein, sinon notre bureau n'aurait pas de raison d'être. Et nous ne pensons pas non plus maintenir les gens dans le flou. Parce que s'ils ont besoin d'être éclaircis sur quoi que ce soit, et je le répète, quoi que ce soit, ils n'ont qu'à nous poser la question et nous allons répondre. Alors, pour
Monsieur Daniel. Le numéro, il dit, si vous pouvez répéter le numéro.
D'accord. Alors, monsieur, c'est le 081 434 44 66. Voilà, ça c'est notre numéro. Je vais reprendre, c'est 081 434 44 66. Site internet, c'est www.vfsglobal.ca/canada/DRC. Voilà. Alors, pour ce qui s'agit de mon numéro privé, triste de vous apprendre, le travail et le privé ne se mélangent pas. Je ne donne jamais mon numéro privé. Quand vous avez besoin de conseils, appelez pendant les heures de service. Je n'emmène pas ma maison au service, c'est ma phrase préférée, et je n'emmène pas non plus le service chez moi à la maison. Voilà. Alors, vous avez besoin de conseils, appelez aux heures dues et nous allons vous aider.
Et il parle d'une procuration, il est à Mbujimayi, peut-il envoyer quelqu'un, donner une procuration pour venir mener les démarches?
Non, il ne peut malheureusement pas, parce que s'il faut déposer une demande de visa canadien, à l'entendre, je pense qu'il est âgé de plus de 14 ans, il travaille à la MIBA, il nous faut sa présence parce que nous devons prélever ses empreintes digitales. Nous ne pouvons malheureusement pas prendre les empreintes de la personne protocole à sa place, il faut qu'il soit là.
Voilà. Et mais certains disent que au niveau des ambassades, il y a des numéros, on donne souvent des numéros comme ça, mais quand les gens appellent, personne ne décroche.
Eh ben moi je suis surveillée. Comme je vous ai dit, nous dépendons totalement du bureau de Dakar. Nos appels, tous les appels téléphoniques, à la fin du mois, j'envoie un rapport de tous les appels entrant comme sortant du numéro de téléphone que je viens de donner. Alors, il faut, le bureau peut voir à ce niveau-là à combien d'appels j'ai répondu et à combien je n'ai pas répondu et je dois rendre compte. Alors, autant répondre à vos appels que rendre compte à mes superviseurs. C'est beaucoup plus facile.
C'est beaucoup plus facile, mais il y a un auditeur qui nous a dit qui nous a écrit en disant que l'ambassade du Canada peut donner les visas, même si la durée du passeport aussi, il vous reste peut-être 2-3 mois, on peut toujours accorder un visa.
Le passeport doit être valide d'au moins 6 mois. Parce que le visa canadien, le visa pour un visiteur, n'est pas plus court que 6 mois. Le plus court visa canadien est de 6 mois. Alors, on ne peut pas émettre un visa qui va au-delà
d'un passeport qui va expirer dans quelques jours.
Donc, il faut avoir un passeport d'au moins 6 mois de validité avec au moins 3 pages vides. Sans ça, vous devez faire un nouveau passeport.
Voilà, faites attention aux malfaiteurs qui promettent de vous aider à obtenir rapidement le visa du Canada. Beaucoup, il y a déjà un certain nombre de personnes qui se sont fait escroquer. Et vous avez suivi, Madame Nancy vous a dit, si vous avez des demandes, rendez-vous directement à l'Organisation internationale des migrations. Alors, une dernière question. Si quelqu'un introduit son dossier aujourd'hui, la réponse lui sera donnée dans combien de temps?
Pour les visas visiteurs, c'est plus ou moins 3 semaines. Pour les visas des étudiants et travailleurs, c'est 6 à 8 semaines de traitement. Pour la résidence permanente, ça va jusqu'à 5-6 ans. Tout dépend de la rapidité de l'administration au niveau du Canada parce que là, c'est une résidence permanente. Tout est vérifié dans les deux sens, dans le pays d'origine comme dans le pays de destination.
Bien, Nancy Modjaka, superviseur du centre de réception des demandes de visa canadien à l'OIM. Merci et bonne journée.
Merci jeudi, bonne journée.